Cassandra, je vous appelle du Danemark. Je voudrais réagir suite à votre émission sur le vélo et apporter mon témoignage en tant que cycliste en campagne, jeune cycliste en campagne. Puisque dès l'âge de 13 ans, mes parents n'ont pas eu peur et m'ont fait confiance, m'ont laissé prendre mon vélo sur les départementales et routes de campagne. Et ça a été un réel moyen d'indépendance et de liberté pour moi, pour aller à l'arrêt de bus, chercher du pain, à la plage, voir mes amis, que ce soit de nuit ou de jour. Trois règles essentielles, suivre le code de la route et se comporter comme une voiture pour pas surprendre les usagers. Bien garder les oreilles ouvertes et, comme le souligne Olivier Schneider, faire le contact visuel avec les autres automobilistes.
Oui, bonjour à Tato Carré, Thierry de Voiron. Bah oui, je pratique le vélo au quotidien depuis toujours, hein, pour aller à l'école, à l'université ou au travail. Pas seulement pour les économies, mais aussi pour préserver un bien commun, mon plaisir et mon bien-être. Je fais le trajet quotidien domicile-travail, 7 km en 25 minutes avec des dénivelés. Et mon entreprise n'aime pas les cyclistes. Il n'y a pas de garage à vélo. Bon, j'avais demandé la prime vélo. Mon patron m'a répondu que par mesure d'équité, il n'accordait pas. Bon, c'est une loi qui a été votée en 2019. Et c'est une loi facultative. Voilà, bonne journée. Au revoir.
Bonjour la Cutaro Carré, c'est Adeline de Châtillon. Voilà, concernant le vélo, bah moi je fais 20 km par jour et c'est pas forcément toujours facile. Les infrastructures qui sont pas toujours évidentes et je voudrais faire une petite réflexion par rapport à où on était en vacances cet été. J'ai été en vélo, je me suis rendu compte que les infrastructures étaient carrément catastrophique. Et je me dis, mais comment font les jeunes pour aller travailler dans des grandes surfaces? Eh ben, ils sont obligés de prendre les voitures des parents. Si on laissait de la place au vélo, ne permettrions-nous pas de laisser de la place à toutes les classes sociales? Merci, au revoir.
Ne pas mettre sa vie en danger en ayant des accès sécurisés, c'est exactement ce que je demande en tant que piéton.
Bonjour, c'est Christine de Lyon. J'ai bien apprécié votre émission hier sur le vélo. Nous aussi à Lyon, on y travaille. Samedi 8 octobre, au Palais de la Mutualité, on organise un festival pour oser le voyage à vélo. Tous les renseignements, vous les trouverez sur le site de la Maison du Vélo Lyon. Au revoir.
Bonjour, ici Patrick. J'habite à Lanciers, c'est un petit village du département du Rhône, dans le Beaujolais, au nord du Beaujolais, à 62 km de Lyon, à 25 km de Mâcon. Pour ma part, je n'ai jamais eu de voiture, j'ai 65 ans, je suis asthmatique. Je me suis toujours déplacé en vélo ou à pied, et c'est parfaitement possible à la campagne. Bien sûr, il m'arrive de temps en temps de demander à quelqu'un de m'aider pour aller chercher un meuble dans un magasin ou des choses comme ça, mais ça m'arrive rarement. Mais la plupart des courses que je les fais toujours en vélo. Alors, ce que je demanderais par contre aux communes qui font des pistes cyclables, si vous faites des pistes cyclables, il faut les entretenir et les tenir propres. Merci beaucoup, à bientôt.
Voilà, et vous l'avez compris, le dossier consacré hier au vélo vous a beaucoup inspiré. Vous avez été très très nombreux à témoigner sur le répondeur. Vous pouvez d'ailleurs réécouter l'émission évidemment sur franceinter.fr. Et pour vos messages, le numéro à retenir, 01 56 40 45 45. Face à la crise écologique que nous traversons, un phénomène est en train de prendre de l'ampleur dans le milieu scientifique, la rébellion de chercheuses et de chercheurs. On voit en effet de plus en plus de scientifiques sortir de leurs réserves pour passer à l'action et alerter sur la menace liée au réchauffement climatique. Comme tirer la sonnette d'alarme à coups de publications et d'études ne semble plus suffire, des scientifiques inspirés par des mouvements comme Extinction Rébellion lancent des actions donc de désobéissance civile pour souligner l'urgence. Dans quelques jours d'ailleurs, une coalition massive se prépare en Europe pour remettre le sujet au cœur des discussions. C'est le dossier cet après-midi de la Terre au Carré avec nos trois invités qui se trouvent à différents endroits. Je salue Élodie Verken, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en écologie à INRAE et coordinatrice du groupe local scientifique en rébellion de Nice. Vous êtes en duplex des studios de France Bleu Vaucluse à Avignon. Bonjour Xavier Capet.
Bonjour.
Vous êtes à Montpellier, vous êtes océanographe à l'Institut Pierre-Simon, la place Sénérès, donc à Montpellier. Vous êtes en duplex de France Bleu Hérault. Et puis enfin, Anaïs Tilquin, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes ancienne chercheuse en écologie, vous êtes membre de la Renovate Switzerland, vous êtes en ligne depuis le canton de Berne. Qui sont donc ces scientifiques rebelles et les chercheurs doivent-ils s'engager plus franchement pour se faire entendre? On va se retrouver dans un instant pour en parler avec les messages bien sûr des auditeurs sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter où vous pouvez justement laisser vos messages vocaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On restera dans le sujet à 14h30.
Oui, puisque moi j'ai parlé avec un peu, on va dire, la Greta des scientifiques en rébellion. C'est un homme, il est climatologue à la NASA, il est américain, il s'appelle Peter Kalmus.
Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Charles de Silia, préparée par Lucie Sarfati avec Rémi Sistiaga à la technique.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, des chercheurs manifestant dans le hall de l'université de Grenade avec une banderole révolution climatique avec extinction, rébellion. C'était le 4 avril dernier. Quand les scientifiques se rebellent pour le climat, donc dossier avec nos invités, Lodi Verken, Xavier Capet et Anaïs Tilquin. Alors, on va commencer avec vous, justement, Anaïs Tilquin. En 2020, vous avez co-signé dans Le Monde avec 1000 autres scientifiques de toutes disciplines un appel à la désobéissance civile et au développement d'alternatives. Appel qui avait fait couler pas mal d'encre à l'époque. Comment ce texte a été reçu justement au moment où vous l'avez publié dans le milieu scientifique et qu'est-ce qu'il disait exactement ?
Je pense que l'impact vraiment énorme qu'a eu ce texte, ça a été de légitimer la désobéissance civile par tout type de citoyens. Et pour les personnes qui étaient déjà en train de s'engager dans cette voie, dont je faisais partie en Suisse en l'occurrence, ça a été vraiment un énorme boost au moral de savoir que des scientifiques prenaient position publiquement là-dessus.
Donc ça a été bon pour le moral, mais ça a aussi été une vraie surprise de voir les scientifiques sortir un petit peu de leur réserve habituelle.
Oui, assez. Et alors malheureusement, moi je ne sais pas qui ont été les initiateurs de ce texte, peut-être que Élodie sait mieux, mais ça a été vraiment une excellente surprise. Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ce que la communauté francophone soit aussi prête à réagir si vite et si fort avec autant de monde, donc c'était vraiment spectaculaire. Et ensuite, dans les mois et années qu'on suivit, ça n'a pas été forcément suivi d'effet énormément de la communauté scientifique. Je pense qu'il a fallu aussi le temps que les gens apprennent à s'organiser et à réfléchir à quels seraient les meilleurs moyens d'action en tant que scientifique. Et là, on commence à arriver en fait à ce stade-là.
Ouais, Élodie Verken, bon, c'était en 2020, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Mais ça a marqué quand même un tournant, hein.
Je pense qu'il y a un avant et un après. Enfin, disons que je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques qui étaient, on va dire, inquiets, préoccupés, et qui n'avaient pas la moindre idée du rôle qu'ils pouvaient jouer là-dedans. Et je pense que ça a donné beaucoup d'idées à plein de monde, et on s'est senti peut-être un peu libérés aussi par rapport à ça.
Ouais, et ça a développé quand même de nouvelles initiatives, un changement en tout cas dans l'engagement des scientifiques, Élodie Verken.
Bah alors peut-être pas tout de suite. Disons que les scientifiques, ils ont aussi des inerties qui leur sont propres et pour beaucoup d'entre eux, ils sont plus à l'aise un peu en retrait dans, on va dire, l'organisation de réflexion, de table ronde, de communication un peu plus institutionnelle. Mm-hmm. Mais le temps faisant et d'autres initiatives ailleurs se mettant en place qui étaient plus dans l'action, je pense que le mouvement, il est en train de bouger.
Ouais, Xavier Capet, à l'époque, donc en 2020, au moment de l'appel du Monde, là, vous étiez déjà très engagé ou pas?
Moi en fait j'ai vu arriver cet appel, j'ai trouvé ça vraiment très très bienvenu. Je pratiquais déjà la désobéissance civile en tant que citoyen à ce moment-là et ouais. Je me suis posé la question et je m'étais déjà posé la question sur certaines actions de savoir si je me sentais à la fois capable et légitime pour porter une voix différente, une voix scientifique sur un temps, une action de désobéissance civile et j'étais pas complètement au clair avec tout ça. Donc j'avais pas signé la tribune, non pas parce que j'étais en désaccord avec tout ce qui dit, j'étais complètement en raccord avec tout ça, mais que j'étais pas certain de vouloir ou de pouvoir m'engager en tant que scientifique dans des actions de désobéissance civile. Ce que je note brièvement, c'est qu'il y a eu énormément de discussions dans les laboratoires en lien avec cette tribune, et que donc ça a ouvert des espaces de discussion pour en parler autrement, pour aborder les questions de neutralité, peut-être qu'on y reviendra, et pour avancer sur des sujets importants en concernant l'engagement des scientifiques.
En sachant que l'appel, c'était au mois de janvier 2020, donc c'était vraiment juste avant le début des confinements, donc peut-être aussi que le mouvement Anaïs Tilquin a mis un petit peu plus de temps à vraiment émerger en raison des confinements partout.
Oui, je pense que vous avez raison, ça a été difficile pour tout le monde dans la société en général.
Ah, Anaïs Tilquin, la ligne a coupé.
Bah, donc, Elodie Verken, voilà, vous pouvez prendre la suite.
Oui, bah, je pense qu'il y avait l'effet Covid, le fait que quand on n'est pas justement en collectif pour pouvoir échanger là-dessus, bah, c'est beaucoup plus difficile de s'y retrouver. Et après, faut voir aussi, enfin, à mon avis, il y a quand même un rôle de l'organisation de la recherche telle qu'elle s'est faite depuis les 20 dernières années, où on a quand même vachement poussé la concurrence, le court-termiste. Les chercheurs sont vraiment sous pression, ils ont quand même beaucoup le nez dans le guidon, avec des projets qui doivent en permanence être défendus, être soutenus, des évaluations, des papiers, etc. Et finalement, des espaces justement collectifs pour réfléchir ensemble, pour discuter de manière ouverte, pour s'interroger sur notre rôle dans la société, moi je trouve qu'il n'y en a plus beaucoup. Oui. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que le mouvement, il a eu du mal à démarrer.
Xavier Capet, alors 2020, c'est aussi la création d'un mouvement Scientist Rebellion par deux doctorants écossais en physique du St. Andrew's College, qui se sont d'ailleurs inspirés du modèle des militants d'Extinction Rebellion. Donc là aussi, ça marque encore une avancée supplémentaire pour vous ?
Ouais, après les communautés, elles sont entre les différents pays d'Europe, elles sont assez déconnectées et donc elles ont des dynamiques propres. Mm-hmm. Donc oui, on observe, oui, ça participe à des réflexions et à des transformations, mais chaque pays vit un peu son propre temps. Ce que je voudrais dire sur la question de rébellion scientifique, c'est que, et pour bien comprendre le contexte, c'est que on parle de scientifiques académiques, c'est pas précisément le modèle du rebelle. On a quand même globalement affaire à des gens raisonnables, responsables. Alors oui, ça y est, ça bouge. On s'autorise désormais à pratiquer la désobéissance civile dans une situation qui est très grave. Et c'est un signe qui doit être entendu, je pense. Et c'est aussi l'idée en faisant ça, c'est de faire entendre le fait que l'inquiétude des scientifiques. Mais avant tout, malgré tout, les scientifiques sont des gens qui vont continuer à exercer leur métier pour une grande part, notamment parce qu'il y en a un certain nombre qui sont impliqués sur des questions où on continue à avoir besoin de science.
Mais est-ce que vous laissez entendre, c'est que c'est pratiquement contre nature, c'est ça, d'entrer dans la rébellion pour un scientifique, aller hors du cadre justement institutionnel.
Ah bah oui, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je voudrais pas en faire quelque chose que je répète en permanence, Le scientifique, c'est un premier de la classe. Voilà, on est dans un laboratoire entre premiers de la classe globalement. Mmh. Et donc un premier de la classe, par définition, c'est quelqu'un qui a bon an mal an respecté les règles qu'on lui donnait et puis fait ce que ses professeurs, maîtres, maîtresses lui ont demandé.
Qui reste dans le rang. Ouais. Et Anaïs Tilquin, qu'on a retrouvé, vous êtes là. Est-ce que c'est aussi, c'est pas du tout un mouvement quelque part générationnel, c'est-à-dire justement c'est intergénérationnel. Dans tous les scientifiques en rébellion, il y a de tous âges, on peut le dire, vous le voyez.
Oui et non, je trouve que c'est assez décevant justement le peu de professeurs et de personnes qui ont une stabilité. Et là-dessus, j'aimerais rebondir sur ce que dit Xavier. Je pense qu'il a tout à fait raison dans le sens où il y a ce côté premier de la classe et aussi confort matériel et social. J'ai un exemple là-dessus qui m'a beaucoup marqué. C'était l'année dernière quand j'ai quitté mon travail à l'EPFZ à Zurich. J'ai siphonné les adresses mail de tout l'institut.
Bravo.
Et je me suis permis de spammer 6000 collègues. Parce que voilà, quand c'est l'apocalypse, on déroge un peu à l'étiquette parfois. En leur demandant de rejoindre des mouvements de désobéissance civile. Et s'ils avaient une situation précaire, bah, peut-être prendre des rôles qui n'ont pas de risques légaux, on va dire. Et je leur proposais de venir me rencontrer sur Zoom, prendre un déjeuner ensemble. Et parmi les 8 personnes qui sont venues, c'était une Iranienne, un Iranien, une Afghane, un Turc, un Géorgien, un Russe, une Mexicaine et une professeure allemande.
Donc pas de Suisse,
Pas de Suisse et pas d'Européens. Donc on voit qu'en fait, les collègues qui sont venus parler de désobéissance, c'est ceux qui viennent de pays compliqués, qui savent que le progrès social, il tombe pas du ciel, qui savent ce que c'est la répression, qui savent qu'il faut aller chercher ces avancées-là. Et qui ont ce courage. Et je pense qu'on est dans une bulle de confort entre scientifiques des pays occidentaux. Et c'est ça qui nous a empêchés pendant si longtemps de taper du poing sur la table alors que les choses empiraient.
Elodie Verken, votre rôle, c'est de secouer le cocotier alors aujourd'hui et de mettre dans une petite zone d'inconfort vos collègues scientifiques ?
Bah, l'inconfort, peut-être pas. En tout cas, moi, je pense qu'au contraire. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent soulagées de savoir qu'ils sont pas seuls à s'inquiéter, en fait, d'avoir cette fenêtre d'ouverture.
Oui, de se révéler quelque part.
Mais ouais, et puis il y a aussi finalement un super enjeu en positif qui est de ressouder la communauté, en fait, de rétablir du débat entre nous et de dépasser justement des différences entre les permanents, les précaires qui se sont beaucoup fracturés dernièrement. Et effectivement, avec ce que disait Anaïs, et c'est incroyable et c'est contre nature que finalement ce soit les plus précaires qui soient le plus prêts à se mettre en danger dans ce système. Ouais, enfin, Xavier... Ils devraient être protégés par les permanents, ils ne le sont pas.
Xavier Capet, pour conclure là-dessus.
Ouais, je voudrais dire que bousculer effectivement, bousculer nos collègues, pourquoi pas, bousculer nos directions aussi, nos directions d'instituts, d'organismes de recherche, où là on voit qu'il y a aussi une déconnexion souvent de la situation.
Eh bien, on va en parler hein, dans un instant. Et puis, si vous êtes vous-même scientifique, vous qui nous écoutez, chercheur citoyen, eh bien, vous pouvez réagir pour participer à ce débat sur la page de la Terre au Carré et les réseaux sociaux pour nous dire si vous attendez justement des scientifiques qu'ils s'engagent un peu plus. Joa et lieutenant Nicholson, c'était Cœur Béton.
La Terre au carré sur France Inter.
J'ai l'impression d'avoir tout essayé, écrire des articles, donner des cours, être bénévole dans des associations, mais aucune de ces activités n'a vraiment fait bouger les choses. Et je ne vois pas les gouvernements prendre les décisions qu'ils devraient prendre pour limiter le réchauffement aussi près que possible des 1,5 degrés, ni pour limiter les émissions des énergies fossiles aussi vite que possible.
Et c'était la voix de Rose Abramoff, spécialiste du changement climatique aux États-Unis. Quand les scientifiques se rebellent face à l'inertie, justement, eh bien c'est le dossier de l'émission avec nos invités Annie Stilquin en Suisse, ancienne chercheuse en écologie, Elodie Verken, chercheuse à INRAE, et Xavier Capet, océanographe. On va vous demander un petit peu de nous raconter vos parcours respectifs de façon évidemment très courte, mais en tout cas c'est intéressant de voir comment vous vous êtes engagé. Xavier Capet, vous, ça a été quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin de la rébellion?
En tant que scientifique, en fait, c'est une action qui a eu lieu en octobre 2020 et qui concernait le terminal T4 à Charles de Gaulle. Il y avait une extension du terminal T4 qui devait augmenter la capacité de 50% de Charles de Gaulle. Mmh. Et en fait, sur ce sujet-là, je me sentais une légitimité particulière parce que dans le cadre de travaux que j'avais menés, d'études, compilations de chiffres pour tenter de comprendre le problème du secteur aérien, j'avais l'impression d'avoir effectué un travail scientifique qui me permettait de porter une vraie voix scientifique dans ce cadre-là, dans le cadre de cette action sur le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle.
C'est la première fois que vous preniez la parole en tant que scientifique alors, hein.
Sur un mouvement de désobéissance, après ouais, sur des questions d'alerte. Oui, c'était vraiment la première fois. Et ce que je disais au tout début de l'émission, c'est que j'étais pas certain de vouloir le faire. Et là, sur ce temps-là, je me suis dit non, c'est pas possible, il y a trop de choses qui clochent dans le dossier, c'est tellement clair qu'il faut pas faire cette extension, c'est tellement clair que il faut réduire les émissions du secteur aérien, que nous-mêmes scientifiques, on s'organise pour le faire. Je fais partie d'un laboratoire qui a dédié énormément d'énergie pour réduire, et on est sur une trajectoire. Je peux pas ne pas aller parler en tant que scientifique à cet événement, et c'est ça qui m'a décidé, plus des relations d'amitié avec des gens que j'avais rencontrés par ailleurs et qui étaient dans les organisateurs, organisatrices de l'événement.
Et donc, par extension, vous avez participé aussi aux actions sur la préservation des terres agricoles du triangle de Gonesse, hein, je crois.
Oui, mais ça, c'était plutôt des visites de sympathisants. Il n'y a pas eu de désobéissance. Mmh. Après, j'aime bien effectivement m'imprégner des luttes locales. J'aime bien savoir ce qui se passe sur le territoire de Saclay, par exemple, sur Gonesse. Oui, effectivement.
Anne Stilquin, vous en Suisse, alors vous avez carrément quitté le milieu de la recherche en juin dernier. Donc ça, c'est tout frais. C'est lié directement à vos actions de désobéissance?
Ouais, en fait, moi j'étais toute jeune chercheuse, hein, j'ai 30 ans, donc j'ai fait une thèse en Suisse, en écologie, et en fait j'avais pas vraiment conscience de la gravité du dérèglement du climat et de la perte de biodiversité, malgré mes études en écologie, c'est même pas des choses dont on nous informait vraiment, puis j'avais un peu cette impression que des gens s'en occupaient, quoi. J'avais grandi avec ces histoires de Agenda 21, développement durable, tous ces trucs qui sont finalement quand même pas mal de la bullshit, mais qui me donnaient l'impression que c'était traité. Et puis, fin 2018, il y a le mouvement Extinction Rebellion qui est né en Angleterre, et j'ai vu ces images de citoyens normaux, pas mal de vieux d'ailleurs, qui se faisaient enlever par la police délibérément des ponts qu'ils étaient en train de bloquer à cause de ce sujet. Et là, soudain, ça m'a fait un effet de réalité très fort en fait, ce sujet est extrêmement grave et l'action ne va pas du tout assez vite d'un point de vue politique, et donc des gens sont prêts à aller en prison pour ça.
Ouais, et des vieux, ils seront contents que vous les citiez, quand même. Hein.
Et
Mais donc, ça veut dire, Anaïs, que vous avez eu l'impression d'un coup de vous dire « je vais être plus utile en dehors de la recherche que dans la recherche ». Alors que vous travaillez sur les systèmes forestiers, en plus, sur la réhabilitation, la reforestation, quoi.
Du coup, l'année dernière, j'étais dans un laboratoire qui travaille vraiment sur la restauration de forêts d'un point de vue très, très pratique. Mais en fait, la réalité, c'est que là, on est en train de tout perdre. On est en train de tout perdre et on va rien avoir à restaurer, en fait, sur une planète à 3 degrés, c'est juste pas possible.
Et donc, ça veut dire que même des recherches comme ça deviennent inutiles pour vous?
C'est-à-dire que si on arrive à inverser la vapeur, alors elles seront complètement nécessaires et on se trouvera embêté si on les a pas faites. Mm-hmm. Sauf que là, clairement, on n'est pas du tout en train de limiter les émissions de CO2.
Ouais.
Du coup, les questions qu'on se pose, les systèmes qu'on étudie, ils deviennent obsolètes année après année au fur et à mesure qu'ils disparaissent et que la crise s'accélère. Et du coup, l'année dernière, j'ai décidé de quitter mon travail parce que je sais aussi qu'en fait, il y a assez peu de personnes qui sont à la fois conscientes de l'ampleur de la menace qui pèse sur nous et conscientes du pouvoir que des individus ont, en fait, à partir du moment où ils choisissent de dire non, de rentrer en résistance civile, le pouvoir qu'ils ont d'inspirer d'autres personnes. Et donc, j'ai vu ça comme ma responsabilité de faire ce choix.
Anaïs Tilquin, vous avez aussi organisé la campagne de soutien à la grève de la faim de Guillermo Fernandez. On en avait parlé dans l'émission. Il avait été très médiatisé, c'était l'année dernière. Informaticien suisse, père de famille, qui a fait pression sur les autorités fédérales au sujet du dossier climatique. Moi, je voulais justement vous demander, parce qu'il avait obtenu gain de cause après 38 jours de grève l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé justement au niveau du fédéral en Suisse? Il y a vraiment eu
Le 2 dernier, il y a eu une journée de formation organisée. C'était à la fois très historique et très décevant, dans le sens où c'est la première fois qu'il y a qu'il y a une formation co-organisée par le GIEC et l'IPBES, qui est l'équivalent pour la biodiversité. Et ces deux crises qui vont main dans la main, donc ça, c'était vraiment quelque chose qui serait pas arrivé sans la grève de la faim de Guillermo, aussi choquant que ça puisse paraître que ces deux institutions travaillent ensemble. Après, malheureusement, on ne peut pas forcer les parlementaires à faire des choses qu'ils n'ont pas envie. On ne peut pas les attacher à leur chaise. Mmh. Et résultat, il y a eu à peu près un tiers des parlementaires, je crois, qui sont venus et très, très peu de parlementaires de droite.
Donc, petite déception
qui ont appelé
quand même.
Cet événement une messe.
Élodie Verken, vous n'avez toujours pas quitté la recherche pour vous en tant qu'écologue à INRAE. Est-ce que vous pourriez l'envisager d'ailleurs ou pas?
Disons que moi je trouve que c'est super utile la parole des scientifiques et des scientifiques d'institutions en fait. Je pense que c'est important de le défendre comme faisant partie du système, parce que si on part tous de là, ça veut dire qu'on oppose deux niveaux de légitimité de parole, et ceux qui restent incarneront peut-être une parole plus sage, tandis que ceux qui quittent auront une parole d'extrémiste ou de personnes, disons qu'on compte sur aussi le côté rassurant, légitime de l'institution, et la responsabilité que ça nous donne par rapport aussi aux citoyens qui payent des impôts, qui payent nos recherches et qui payent nos salaires.
Donc il ne s'agit pas d'arrêter de faire de la recherche, concrètement.
Mais
c'est pas incompatible, en tout cas.
C'est très vrai. Ouais, ce que dit Anaïs, c'est très vrai. Quand on bosse en sciences de la nature, en fait, là, il y a un énorme paradoxe entre on continue à faire ce qu'on fait, mais en fait, on ne fait que documenter des choses qui s'écrasent. Et donc, c'est intéressant de le faire. Mais il y a plein de projets, effectivement, qui, si d'ici 20-30 ans, ce sera absolument plus pertinent. Et donc, toutes ces ressources-là qui auront été investies dedans, est-ce que c'était, du coup, la chose à faire, ouais, là, aujourd'hui?
Un petit mot quand même, parce qu'en avril, vous vous êtes mis en grève scientifique pendant une semaine. Qu'est-ce que vous avez fait exactement à cette occasion-là?
Alors, c'était la première mobilisation qu'on montait à Nice. Et du coup, nous, ce qu'on avait choisi de faire, c'était d'aller sur tous les campus de la ville, organiser des petites conférences sauvages, là, à l'heure du déjeuner, pour essayer de discuter avec les étudiants, voir un petit peu ce qu'on pouvait échanger ensemble, en fait. Mm-hmm. Est-ce que il y avait des choses qu'ils connaissaient pas, qu'ils avaient envie d'apprendre sur ces questions-là, et voir si on pouvait partager ce sentiment d'urgence.
Message de Pascal, en tout cas, qui vous salue tous sur franceinter.fr. C'est une énorme bulle d'espoir qui s'ouvre avec ce mouvement des scientifiques essentiels. Merci donc, nous écrit-elle.
Allez, on se retrouvera dans un instant. Il y aura d'autres témoignages pour vous. Ils arrivent nombreux sur le site de la Terre au Carré. On vous les transmet dans 3 minutes.
France Inter, la Terre au Carré.
14h30, on passe au vert, Camille Cronier.
Et quand on parle des scientifiques qui se rebellent, qui entrent dans la désobéissance civile, il y en a un qui se détache, c'est un Américain en blouse blanche et en pleurs le 6 avril dernier à Los Angeles, alors qu'il s'enchaînait aux portes de la banque JP Morgan Chase, énorme financeuse de projets fossiles. Les gars, ça fait tellement de décennies qu'on essaye de vous alerter, qu'on se dirige tout droit vers une putain de catastrophe. On est ignorés, nous, tous les scientifiques du monde, mais on ne plaisante pas, lancé Peter Kalmus, son nom, ancien astrophysicien qui est devenu climatologue à la NASA en 2012 quand il a pris conscience de l'ampleur des choses. Il est aujourd'hui spécialiste des récifs coralliens et de modélisation pour leur avenir, et donc une figure, oui, de la rébellion scientifique.
Yeah, I'm furious.
Furieux, le climatologue, contre les géants des énergies fossiles et les dirigeants qui se rendent complices et sont même corrompus, dit-il.
Ça ne paraît plus suffisant d'écrire et publier des études, plus du tout. Si le système fonctionnait comme je pense qu'il devrait fonctionner, alors quand les scientifiques révéleraient un danger évident et présent, les dirigeants y répondraient et agiraient pour éviter ce danger. Mais ils ne le font pas. Même ils empirent les choses en continuant à développer les activités fossiles. Donc vous savez, je pense que pour ces raisons, beaucoup de scientifiques se sentent de plus en plus désespérés.
Désespéré, oui, desperate, dit-il. Lui, le premier, hein, voilà ce qu'il m'a dit hier quand je l'ai appelé. La vérité est terrifiante, selon moi. Je suis, oui, terrifié par ce qui se passe. Parfois, je m'assois à 3h du mat' dans mon lit, parce que c'est tellement étrange que ce soit en train d'arriver à la planète, sous nos yeux, et qu'on ne semble pas en faire une priorité, le stopper. Depuis plusieurs mois, il poste des messages tous les jours sur Twitter, suivi par des centaines de milliers de personnes. Une forme de catharsis, dit-il. Il a même aussi ouvert un compte TikTok pour alerter.
Quand les scientifiques savent ce qui se passe, quel autre choix avons-nous? On est dans une position malheureuse qui... Mais pour moi, il est très clair que j'ai une responsabilité morale de sonner l'alarme aussi fort que je peux. Ça me semble la chose la plus importante que je puisse faire dans ma vie.
Et Peter Kalmus pense que tous les scientifiques devraient se mobiliser et se dévoiler aussi quelque part.
Hein.
En fait, nous sommes des humains. Hein. Les émotions, c'est important. Donc je pense que c'est très important que les scientifiques intègrent cette humanité pour laisser voir au public comment la réalité scientifique les affecte. Alors, il sait bien qu'il y en a, hein, et heureusement, mais il est un peu dépassé par la notoriété et la figure donc qu'il est devenu.
Ça me paraît irréel. Je suis assez surpris que ça ait pris cette tournure. Perso, je préférais franchement juste faire de la science.
En tout cas, la NASA, où il fait donc ses recherches, ne lui met pas la pression pour l'instant, et lui, qui précise qu'il parle en son nom propre, hein, pour cette chronique, ne sait pas jusqu'où il ira dans ses actions, mais il insiste malgré les apparences. Je n'ai pas perdu espoir, que ce soit clair. Mon espoir, c'est que les racines du mouvement se développent de plus en plus.
et que très bientôt, elles deviennent plus puissantes que l'industrie fossile, et qu'ensuite les politiques aient plus peur de l'électorat concerné par le climat que par les patrons fossiles qui leur sont, qui font des donateurs, hein. Et on commence déjà à voir ça arriver. Voilà, et même si c'est pas joyeux à lire tous les jours, au moins c'est ultra documentaire, il vérifie tout. Et ça secoue, donc allez voir sur ses comptes Peter Kalmus avec un K.
Et c'était Camille Passauvert avec un C, ouais, que vous pouvez réécouter sur franceinter.fr.
Elodie Verken, Anaïs Tilquin, Xavier Capet, est-ce que vous suivez tous les trois et vous connaissez évidemment Peter Kalmus qui a été aussi peut-être une source d'inspiration ou pas pour vous?
Xavier Capet peut-être pour commencer.
Mais en fait, je connaissais pas l'engagement, le niveau d'engagement de Peter Kalmus jusqu'à récemment, en fait, jusqu'à cette action sur la banque américaine en avril. Donc non, ça m'a pas vraiment influencé. Mais là, maintenant que je le suis un peu, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est bouleversant, c'est quelqu'un qui a une hauteur morale qui est indépassable. Après, voilà, il y a un tel impact sur sa vie personnelle et sur ses proches que il faut l'avoir dans les tripes pour le vivre de cette manière-là. Même si effectivement, quand je l'entends, je réalise à quel point il a placé le niveau d'engagement au niveau qu'il faudrait qu'on ait tous. Mais après, voilà, ça implique de tels compromis et je pense qu'on est, voilà, les scientifiques comme le reste des citoyens sont pris dans ces compromis et voilà, Peter Kalmus est un peu une comète sur Terre.
Vous en parlez très bien en tout cas. Elodie Verken, est-ce que le degré d'exigence proposé par Peter Kalmus vous semble inatteignable?
Je pense que c'est une inspiration, donc c'est quelque chose vers lequel on peut viser et en tout cas ces actions, elles ont été très inspirantes. Moi, pour les gens que je fréquente, ils s'étaient pas imaginés qu'un scientifique pouvait sanctionner une banque et maintenant c'est devenu une possibilité, donc je pense que ça ouvre beaucoup de possibles.
Et Anaïs Tilquin, est-ce que finalement ce qu'il dit là, on est des scientifiques mais on est avant tout des humains, est-ce que finalement c'est pas ça la clé tout simplement? Et d'ailleurs ça va un petit peu à contresens de ce que vous disiez tout à l'heure, Xavier Capet, que voilà, les scientifiques premiers de la classe, on reste dans le rang puis on sort pas trop de notre rôle. Est-ce que finalement c'est pas ça tout simplement de faire transparaître, révéler ses émotions parce que vous êtes tous des humains?
Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est vraiment la base et c'est quelque chose que Peter fait depuis un certain temps et qui l'avait rendu un peu controversé parce qu'en fait, il y avait cette espèce de vérité admise dans notamment les ONG qui parlaient de climat jusqu'à présent, qu'il faut toujours être positif, dire aux gens, vous allez éteindre le robinet quand vous brossez les dents et recycler, ça va bien se passer. Faut pas faire flipper les gens, sinon ça les paralyse. En fait, c'est pas vrai. Les gens, déjà, on leur doit la vérité et la vérité, elle est terrifiante. Et surtout, faut pas avoir peur de faire flipper les gens si après on leur montre aussi en quoi vous pouvez convertir cette énergie-là, c'est-à-dire quel type d'action marche, notamment les mouvements sociaux. Et Peter, lui, a pas eu peur de faire ça, de montrer sa peur, de montrer sa détresse. Et à l'époque, ça a été un peu controverse parce que est-ce que justement, c'est pas en train de décourager les gens? Mais la vérité, c'est que pas, ça inspire énormément des personnes.
Sauf que rester dans la peur, est-ce que c'est pas une façon aussi de paralyser les enthousiasmes?
En fait, il y a différents types d'acteurs qui utilisent la peur de façon complètement différente. Il y a la peur simplement sincère. En fait, être sain d'esprit, c'est avoir peur à l'heure actuelle, parce que la situation est réellement grave et il faut réagir. C'est normal, la maison est en feu, on a peur, on part en courant. C'est sain. Et par contre, la peur est aussi utilisée par l'industrie fossile de plus en plus, de façon délibérée, avec, par exemple, il y a des faux comptes Twitter, puisqu'on parlait de Twitter, qui sont là, on les appelle les doomers, donc c'est ceux qui pensent, qui disent qu'il n'y a pas d'espoir. Et en gros, leur message, c'est on est foutu pour foutu, autant consommer.
Ouais.
Mais en fait, vraiment la grosse différence entre ces deux approches, c'est un, la sincérité, et deuxième chose, c'est quelle est l'action que les gens peuvent prendre. Et quelque chose qu'on explique assez peu, c'est que vraiment la solution se trouve dans les mouvements sociaux, puisqu'il y a un blocage politique, une corruption des élites politiques, une capture par l'industrie fossile, et l'action citoyenne doit avoir lieu en termes de mouvements sociaux de masse, maintenant de plus en plus radicaux.
Allez, on se retrouve dans un instant, et on vous transmet les messages, c'est promis, qui arrivent sur le site de l'émission, juste après Arlo Parks Softly sur France Inter.
I'm dazzled hard. We're in Berlin. And when you leave, just break it down to me softly. The veils are frayed. I'm shuddering. I dip into the love we had with ease. Lemon and ginger beer.
Et c'était Arlo Parks.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
À Madrid, toujours en avril dernier, des membres de Scientific Rebellion qui protestaient devant le Congrès des députés. Ils ont aspergé à cette occasion les murs du bâtiment de peinture rouge et ont procédé à un blocage non violent. Les scientifiques en rébellion, donc on en parle cet après-midi dans la Terre au Carré avec Élodie Verken, Anaïs Tilquin et Xavier Capet. Anaïs Tilquin, d'ailleurs, est-ce que la non-violence, c'est vraiment le mot d'ordre absolu pour vous ou pas ?
Oui, mais la non-violence, faut pas comprendre ça comme ça veut pas juste dire ne pas utiliser de violence. En fait, c'est une technique de conflit qui a été développée notamment par Gandhi, par Mandela, par Martin Luther King. Donc c'est vraiment c'est une façon de foutre la merde, mais d'une manière qui ne crée pas des nouveaux conflits derrière. C'est-à-dire que on prend un problème qui existe déjà dans la société, un conflit qui existe déjà, on le dramatise, on l'amplifie, on le met dans la tête de tout le monde pour que les gens soient forcés de prendre position. Mais après, on s'assure que la relation puisse être réparée derrière et qu'il n'y ait pas des ressentiments et des conflits ensuite qui n'avaient pas lieu d'être. C'est ça la tactique de la non-violence, en fait. C'est ça que ça veut dire.
Message de Niels sur franceinter.fr. Bravo aux scientifiques qui se mobilisent. Mais dit-il, il faudrait avant tout que les scientifiques et les ingénieurs qui travaillent dans les entreprises de pétrole, constructeurs automobiles, informatique, agronomie, se mettent en marche plus que les scientifiques de l'écologie et du climat. Et Ariane ajoute cette question. Est-ce que pour faire partie des scientifiques qui se rebellent, il faut forcément travailler dans une discipline relative au climat. Élodie Verken, vous êtes donc chercheuse en écologie, mais est-ce que du coup ça ne confine pas un petit peu trop la rébellion s'il n'y a que ceux qui sont directement concernés qui s'y mettent ?
Mais je crois que c'est pas du tout le cas. Il me semble que le collectif scientifique en rébellion français, il a été fondé notamment par des gens des sciences humaines et sociales qui ont toute leur place à faire, parce que finalement les problèmes d'urgence écologique, c'est des problèmes qui sont transdisciplinaires par essence. Hein. Enfin, ça va toucher tous les pans de la société et des systèmes naturels et des systèmes humains. Donc en fait, tous les scientifiques sont légitimes à s'impliquer dedans. Et il y a beaucoup de choses à apporter par toutes les disciplines, justement.
Xavier Capet voulait rebondir là-dessus.
Ouais, mais c'est pour confirmer ce que dit Élodie, c'est que c'est un mouvement général, que toutes les disciplines sont concernées. Il y a énormément de disciplines qui ont des choses à apporter sur les questions d'adaptation, d'alerte. Et donc, c'est un grand mouvement.
Élodie Verken, vous avez en avril dernier toujours manifesté avec Xavier Capet, je crois que vous étiez aussi au Muséum National d'Histoire Naturelle, ça a été occupé pacifiquement par une vingtaine d'universitaires, de militants écologistes. C'était quoi l'idée pour vous alors en bloquant le Muséum National d'Histoire Naturelle ?
Alors moi, j'y étais pas physiquement, je participais à la manifestation, j'avais fourni du contenu qui pouvait être diffusé si jamais les manifestants étaient évacués par la police. Et alors l'objectif, c'était donc de remettre au centre la transparence et l'information du public. En fait, ce qui paraît évident, c'est que finalement le public n'a pas pris du tout conscience des enjeux. Du niveau de vulnérabilité auquel se trouvent les personnes. Il y a un déni généralisé et il y a de la désinformation organisée sur ces sujets. Et là, notre responsabilité à nous, elle est d'être sûr que chacun possède l'information qui va lui permettre de faire des choix éclairés.
Mais Xavier Capet, qu'est-ce que ça vous fait quand vous mobilisez, donc, en l'occurrence, là, au Muséum National d'Histoire Naturelle en avril, et que quelques mois plus tard, la Première Ministre Elisabeth Borne y fait son premier déplacement officiel, tout sourire accueilli par la direction, comme si tout allait bien. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage aussi, une forme de révérence qu'on fait? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les dirigeants en face de nous, on se tait et on arrête d'être rebelle.
Oui, dans une certaine mesure, il y a ça, c'est clair.
C'est contre-productif, pardon, je vous interromps, mais à quoi ça sert si c'est pour en fait fermer sa bouche une fois qu'on a les vrais dirigeants en face de nous?
C'est pas forcément les mêmes personnes qui sont dans un temps et dans l'autre. Et donc, il y a cette coexistence dans la communauté scientifique entre des gens qui font l'accueil à Madame Borne et puis d'autres qui font des temps d'action de désobéissance. connaissances. Et je pense que voilà, on pourra pas aller au-delà, c'est-à-dire qu'on pourra pas demander à l'ensemble de la communauté scientifique de s'investir dans un mouvement de désobéissance civile généralisé. D'ailleurs, il me semble que Valérie Masson-Delmotte, il y a pas très longtemps, rappelait que il faut quand même pas remettre toute la charge
sur les épaules des scientifiques et des jeunes.
Exactement. Je pense qu'elle pensait surtout aux politiques. Mais ceci dit, ça vaut plus généralement pour le reste de la société, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on peut. Et il y a des moments où on va faire de la désobéissance civile, où il sera plus évident que nous aussi, on flippe pour nos enfants, on flippe pour nos familles, on flippe pour la suite de nos vies, de celles de nos collègues, notamment ceux qui vivent au sud et qui vivent dans des sociétés moins résilientes. Mais voilà, on pourra pas faire beaucoup plus.
Et Xavier Capet, justement, à l'occasion de l'occupation pacifique donc du Muséum national d'histoire naturelle, vous avez donné une conférence en fait sur la crise écologique. C'était votre action, c'est ça ?
C'était ma proposition de temps dans la conférence. J'avais une présentation sur les aspects liés à l'océan qui, comme tout le monde le sait, est particulièrement impacté et va l'être de plus en plus par les changements globaux. Et puis avec une tentative de donner un éclairage engagé sur cette problématique.
Et vous avez été poursuivi après ou pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, mais il s'est rien passé. Moi, ce qui m'intéressait dans cette action, c'était de savoir comment le muséum allait réagir.
Ben justement, ouais.
C'était plutôt. Et bon, ils ont réagi de manière très posée, tranquille. Je pense que c'était en partie lié au fait de pas créer trop de vagues. C'était plutôt leur approche, et j'imagine que stratégiquement, c'était bien joué. Ça a permis quand même. Je suis dans un laboratoire dont le muséum est tutelle. Ça veut dire qu'on a des chercheurs du muséum. Le directeur de mon laboratoire est professeur au muséum, ça a conduit à des discussions un peu. Donc ça participe à de nouveau élargir le débat au sein de la communauté. Après, sur ce temps d'action-là, je pense pas qu'on ait touché énormément de public, même si il y avait une dimension symbolique qui était très forte, parce qu'on avait des mammouths autour de nous, des tas d'animaux qui sont maintenant disparus, et que ce dont on parle, ça a à voir avec ça aussi.
Et est-ce que, Anaïs Tilquin, quand vous avez, avant de quitter donc en juin votre laboratoire, vous pouviez aussi être mal vu. Est-ce que le regard de certains collègues peut venir créer des tensions, que ce soit donc au muséum, là dont on parlait avec Xavier Capet, ou dans d'autres laboratoires, c'est-à-dire des chercheurs qui vous disent non mais arrêtez et qui vous prennent un peu pour des hurluberlus de faire de la désobéissance civile en disant que c'est pas votre rôle.
J'ai pas eu trop ça directement, mais quand même quelques fois. Et en fait, la façon dont j'analyse ça, c'est qu'en fait, surtout quand on n'est pas dans les sciences sociales, on a très peu d'éducation en tant que chercheur en sciences de l'environnement, par exemple, sur la place de la science dans la société, les conflits d'intérêts, etc. On est assez peu éduqués là-dessus. Et du coup, les chercheurs n'ont pas conscience du fait qu'il y ait vraiment des tentatives de désinformation et de décrédibilisation par certaines personnes qui sont organisées pour ça, donc notamment des think tanks, etc. Et donc, c'est arrivé que des collègues m'écrivent pour me dire que être alarmiste était contre-productif parce que ça décrédibilise la science et tout ça, en sortant des arguments, et c'était fascinant, en sortant des arguments qui viennent littéralement de think tanks de l'industrie. Donc du coup, il y a des collègues qui tombent complètement dans le panneau sans se rendre compte que s'il y a de la décrédibilisation qui est faite des scientifiques suite à leur engagement, c'est la réaction du camp d'en face. C'est pas la société qui va d'elle-même décider « Oh, ces scientifiques ne sont plus crédibles à mes yeux ». C'est des tentatives délibérées de SAP, du mouvement social des scientifiques.
Élodie Verken, je crois que dans quelques jours aura lieu, à l'initiative de Scientist Rebellion, une grosse mobilisation en Allemagne avec des scientifiques qui vont venir de toute l'Europe. Est-ce que vous avez plus d'infos sur ce qui va se passer ?
Donc il s'agit d'une coalition qui est menée par trois organisations. Il y a Scientist Rebellion, il y a Letzte Generation, je ne sais pas comment ça se prononce en allemand, enfin donc Dernière Génération, et Dead for Climate. Et la coalition s'appelle United Against Climate Failure, donc unie contre l'échec climatique. Et ça va commencer bientôt le 10 octobre, et pendant plus d'un mois. Donc c'est centré sur l'Allemagne parce que c'est un pays un peu symbolique et influent au niveau de l'Europe. C'est le pays le plus émetteur historiquement, qui a un poids politique très fort. Et ça va durer jusqu'à la COP27. Et où des scientifiques vont aller risquer aussi leur badge d'accréditation à la COP27 pour essayer de faire entendre leur voix.
Et ça vaut le coup, justement, là, vous dites, vous employez le mot de risque, tout ça, les scientifiques qui participent, ils sont prêts.
Bah, pas tous les scientifiques, mais ceux qui y participent, effectivement, ils sont prêts et c'est hyper courageux de leur part parce que malgré tout, on va dire que être partenaire de gros événements, être invité, être reconnu, c'est aussi quelque chose pour nous, un enjeu professionnel assez important. Donc les gens sont prêts à mettre ça sur la table.
Et quelles sont les limites que vous vous fixez? Parce que on en parlait là dans une émission il y a quelques jours sur les manifestations, notamment les mobilisations avec les jeunes mobilisés, etc. Est-ce que finalement tout ça suffit? Est-ce que même aller, on a vu à Londres des scientifiques se coller littéralement avec de la glu aux portes de Shell, me semble-t-il, du siège de Shell. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il y a un moment où il va falloir passer un stade supplémentaire? Et là, ce serait quoi comme stade à ce moment-là?
À mon avis, la question, elle n'est pas le stade supplémentaire. C'est-à-dire que les actions sont déjà très engageantes.
Oui, mais est-ce qu'elles sont utiles?
Elles sont utiles parce que malgré tout, on en parle beaucoup plus des sujets qui étaient absents du débat public il y a 6 mois. Et maintenant, ils sont très présents. Il y a de plus en plus de collègues qui viennent, qui sont intéressés, qui disent « mais moi, en fait, finalement, je sais plus quoi faire, mais ça m'a l'air bien ». Et il y a les théories des points de bascule sociaux. Et finalement, il s'agit pas de convaincre 80% de la population, mais si on arrive à avoir une petite minorité, mais bien engagée, on peut arriver à obtenir des choses. Donc l'enjeu, il est là. Il est d'arriver à mobiliser ceux qui ont envie, mais qu'osent pas y aller.
Xavier Capet, qu'en pensez-vous ?
Moi, je pense, c'est que, effectivement, de nouveau, il faut pas tout attendre de scientifiques, aussi engagés soient-ils. C'est-à-dire qu'on contribue à un effort global. On est en train de tenter de sortir d'une position de sachant tout puissant qui dirait ce qu'il faut faire. C'est absolument pas ce qu'on veut. Il est pas question de s'y remettre en pratiquant la désobéissance civile. On contribue globalement à une sortie de zone de confort. C'est comme ça que les jeunes souvent, parlent de ce qu'ils vivent. Il y a des tas de scientifiques qui, à la fois avec de la désobéissance, mais aussi d'autres manières, des manières qui se voient pas, institutionnelles, complètement cachées, sortent de leur zone de confort. On a besoin de continuer à sortir de notre zone de confort tous globalement, et les scientifiques y contribuent, notamment par la désobéissance. Moi, c'est vraiment comme ça que je le dirais.
Allez, d'autres messages pour vous dans un instant.
Je sombre. Il me paraît bien loin l'été, je ne l'ai pas oublié, mais j'ai perdu la raison. Et le temps peut bien s'arrêter, peut bien me confisquer toute notion des saisons.
De saison, la voix d'Émilie Simon et Thierry Dupin qui signent la programmation musicale de la Terre au Carré. Les scientifiques se rebellent, on en parle avec Xavier Capet, Élodie Verken et Anaïs Tilquin. J'avais une question à vous poser, Anaïs Tilquin. Est-ce qu'en Suisse, vous sentez les citoyens à vos côtés, justement, dans ces mouvements de rébellion?
Ouais, plutôt. J'ai été agréablement surprise par la capacité d'un certain nombre de Suisses quand même à se rebeller malgré ce qu'on pourrait penser.
Ouais.
Et notamment les docteurs et les professionnels de la santé en Suisse ont très très tôt été dans des mouvements de désobéissance civile, notamment les Doctors for Extinction Rebellion. On en a retrouvé énormément et c'est des comme les scientifiques en général, c'est des personnels qui jouissent d'un grand crédit social. Les gens les croient, les gens leur font confiance. Quand il y a des soignants qui disent que ça va pas et qu'il faut faire quelque chose, les gens ont tendance à entendre ces messages-là aussi.
Élodie Vercanon, en France, pareil, est-ce que vous sentez le soutien, l'approbation du grand public, là, vraiment en dehors de la sphère scientifique?
Alors, je crois qu'ils sont très contents de nous voir. Ils sont très contents d'avoir des réponses à leurs questions. Ils ont l'impression qu'ils les ont pas par ailleurs, et ils nous en demandent parfois un petit peu trop. On essaie de tenir une ligne dans laquelle on n'est pas dans la prescription. Donc, on est là pour défendre les constats, les résultats, à la limite pour expliquer que la trajectoire sur laquelle on est engagé n'est pas compatible avec les objectifs climat affichés. Par contre, on n'est pas là pour leur dire comment faire. Et ça c'est pas encore très bien compris, parce que les gens ont envie qu'on leur dise comment faire. Mais c'est pas notre rôle à nous. On peut juste leur donner l'information et leur dire, bah, avec tout ça, il y a plein d'options possibles, et c'est finalement un débat démocratique de les régler. Ce sera pas à nous de vous dire quoi faire.
Alors Pascal vous tacle un petit peu sur franceinter.fr. Les scientifiques feraient mieux de chercher des solutions de remplacement aux énergies fossiles. Ils seraient plus utiles qu'à faire de l'agitation. Qui veut répondre à Pascal Le?
Xavier Capet.
Oui, je veux bien répondre. Oui, effectivement, mais on fait ça aussi. Le truc, c'est que on a le nez rivé sur la situation et que on voit très bien que les solutions ne vont pas suffire. En fait, il faut arrêter de parler de solutions. Il faut parler de réponses, parce qu'on va pas solutionner ce problème. Donc, on a besoin de faire tout un tas de choses. C'est très compliqué et on fait ça. Des réponses pour décarboner, s'adapter. On le fait aussi.
Allez, il nous reste
40
secondes.
Et un dernier message de Sylvain. C'est comme les journalistes, les scientifiques dénoncent les changements climatiques, en parlent, et il faut absolument qu'ils s'engagent derrière. Anaïs Tilquin, est-ce que vous trouvez que les médias s'engagent suffisamment sur ces questions-là, tout simplement?
Non, pas du tout. On est vraiment en train de tout perdre. Là, nos familles, nos communautés, nos économies, nos paysages, tout va disparaître pendant notre vie, en grande partie, si on fait rien. Ça devrait être la priorité en permanence. Tous les sujets parlent du changement climatique. Tous les politiciens devraient être interpellés en permanence sur le changement climatique. Et c'est pas le cas dans les médias. Dans les médias, on en parle de plus en plus, mais c'est rarement en faisant les liens réels de où sont les intérêts, quelles sont les dynamiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, etc. Donc je pense qu'il y a une approche. Je pense pas que les médias soient globalement dans le camp des citoyens actuellement.
Merci beaucoup Xavier Capet, Élodie Vercanon et Anaïs Tilquin. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, si vous souhaitez réagir à cette discussion, vous pouvez aller dès maintenant sur le répondeur pour qu'on vous entende demain. C'est au 01 56 40 45 45.